Bienvenidos a este informativo de Radio
Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde. Ce soir, c'est avec, pour la rédaction en anglais, Alison Heard.
Hello.
Pour la manière dont la ville de Bordeaux en France a fait fortune avec la traite des Noirs. Denis Trekloff de la rédaction russe.
Здравствуйте.
À propos du discours annuel de Vladimir Poutine devant le Parlement. Et Ali Reza Manavzadeh de la rédaction persane. Pour les tensions diplomatiques entre l'Iran et le Pakistan après l'attentat commis en Iran par un groupe basé au Pakistan, justement. Et puis la rédaction persane endeuillée par la disparition de Farangis Habibi Razavi Nazer, qui a travaillé 20 ans ici à Radio France Internationale. Il y a moins de 15 jours, elle venait de publier un livre autobiographique, La guerre m'a parlé de loin, à l'occasion du 40e anniversaire de la révolution iranienne, dans laquelle elle retraçait son parcours d'exilée iranienne. Ses obsèques avaient lieu cet après-midi. Avant tout cela, avant d'aborder vos sujets, les uns et les autres, intéressons-nous à l'une des principales actualités de la semaine en France, à savoir la mobilisation contre l'antisémitisme avec plusieurs événements, Alison Heard.
Oui, ça a commencé, Philippe, il y a 2 semaines, avec le mot « Juden », ça veut dire « juif » en allemand, écrit en jaune sur la vitrine d'un magasin à Paris. Après, des images de Simone Veil, survivant de la Shoah, récemment décédée, trouvée avec couvert de croix gammées à Paris. Après, un cimetière juif profané dans l'est de la France, après des arbres, plantés en hommage à Ilan Halimi, torturé parce qu'il était juif en 2006. Les arbres ont été déracinés. Arrivé le week-end dernier, lors des manifestations des Gilets jaunes qu'on a l'habitude d'avoir, un ou deux manifestants ont lancé des injures antisémites à l'égard du philosophe juif français Alain Finkielkraut, notamment sale zioniste. La classe politique demande alors à manifester contre l'antisémitisme mardi dernier et mercredi. Le dîner du CRIF, c'est-à-dire le Conseil représentatif des institutions juives de France, auquel assiste bien sûr comme tous les ans le président, cette fois-ci, c'est président Macron. Donc, Macron annonce une loi contre la cyberhaine et que la définition de l'antisémitisme serait élargie pour inclure la notion d'anti-sionisme, celle de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Mais certains juifs de France ne sont pas en accord avec cela, notamment certains juifs de gauche. L'Union juive française pour la paix, UJFP, organisation juive laïque, qui s'oppose d'ailleurs à l'occupation des territoires palestiniens, a préféré faire une autre marche. Richard Wagman est président, il nous explique pourquoi.
There are many organizations, including ours, which decided to organize a counter rally or a separate rally, which will not be instrumentalized by the government.
Donc, il explique que son organisation, comme d'autres ONG, ont pris la décision d'organiser un autre rassemblement qui ne serait pas, il dit, instrumentalisé par le gouvernement. Il considère que le gouvernement essaye d'instrumentaliser la question d'antisémitisme en proposant justement de légiférer pour que, il dit, l'antisionisme soit illégal, sous couvert que ce soit partie du combat contre l'antisémitisme. Donc il n'est pas d'accord avec tout ça. Il insiste que l'antisémitisme est une forme de racisme et le zionisme ou antisionisme n'est autre qu'une opinion politique.
Denis Trekloff, quels ont été les réactions en Russie à ce qui s'est passé en France ces derniers jours?
Cette semaine en Russie, ce qui est intéressant, ce n'est pas les réactions de la classe politique, c'est le discours annuel de Poutine qui les fait réagir, mais celle des médias d'État qui sont devenus un peu des outils de propagande. Voici ce que Sergei Zassorin, professeur à l'université pédagogique de Moscou, a dit sur le plateau de la chaîne Russie 24.
Это долгосрочная, долгоиграющая тенденция. Это не какая-то мода времени, которая сложилась именно во Франции.
Quelle est son analyse?
Que la cause de ces actes antisémites en France, c'est la crise de l'idée de multiculturalisme en Europe, ainsi que la crise sociale, économique et politique. Monsieur Zassorin, comme beaucoup d'invités journalistes de la télé russe, profite de ces actes pour parler de la crise politique en France et de l'état fragile des pouvoirs en Europe.
Oui, je vous en prie.
Pour lui, l'antisémitisme en France est sans doute lié au mouvement des Gilets jaunes. Les pouvoirs sont affaiblis, donc le gouvernement ne peut pas gérer une nouvelle crise. Un autre invité du même plateau explique, Macron n'est pas venu au rassemblement contre l'antisémitisme à Paris pour une raison très simple. Comme ça, on ne peut pas l'accuser d'avoir profité de l'antisémitisme pour gagner de la popularité. Par contre, ses autres actions ne sont pas été couvertes par nos journalistes. Donc la couverture de ces actes antisémites n'est pas toujours très objective. Les médias parlent des problèmes et de la crise de la manière assez générale est souvent exagérée.
Alireza Manavzadeh, peut-on endiguer la poussée de l'antisémitisme en pénalisant l'antisionisme comme cela est proposé, comme en parlait tout à l'heure Alison?
L'antisionisme est une pensée politique et tout le monde sait qu'en France, il n'est pas interdit de critiquer une pensée politique. Mais le problème est que dans l'état actuel des choses, la frontière entre l'antisémitisme et l'antisionisme est facilement traversable. Pourtant, comme l'a bien dit le président de l'Assemblée nationale, faire une loi contre l'antisionisme va poser des problèmes interminables. Il faut donc discerner puis sanctionner l'antisémitisme qui se cache derrière l'antisionisme. C'est un travail délicat et c'est pourquoi plusieurs personnalités sont dubitative quant à la pénalisation de l'antisionisme.
Alors, il y a eu des manifestations de solidarité avec les Juifs, il y a eu aussi les mesures proposées par Emmanuel Macron, dont une loi pour lutter contre la haine sur Internet. Là encore, comment cela a été accueilli, commenté en Russie, Denis Strekloff?
Cette loi en Russie était assez critiquée, on peut dire. Les médias d'État, par exemple, le fameux Spoutnik, indique que cette loi, même si l'initiative est jugée plutôt positive, peut être utilisée pour limiter les libertés d'expression. Selon eux, la proposition du président va mener à la hausse du nombre de condamnations pour ensemble les commentaires en ligne. Pour Vladimir Barater, expert de l'Institut des études politiques russes, personne n'est obligé d'être toujours politiquement correct dans ses paroles prononcées à titre privé.
En Russie, est-ce qu'une telle loi existe déjà?
Oui, les condamnations sont nombreuses pour les publications ou les commentaires qui incitent à la haine ou aux actions contre le pouvoir. La sanction est sévère, jusqu'à 5 ans de prison. Même si la xénophobie est un problème qui perdure en Russie, cet article du code pénal est utilisé dans la plupart des cas contre les activistes de l'opposition. Les commentaires qui incitent à la haine sont au contraire très souvent ignorés par les autorités.
Alireza, revenons maintenant précisément sur les causes de l'antisémitisme qui court aujourd'hui.
En fait, en France, aujourd'hui, comme l'a bien dit Alain Finkielkraut après son agression, c'est plutôt l'antisionisme qui se manifeste par la haine du juif. Évidemment, c'est un antisémitisme, il faut appeler un chat, mais il se distingue de l'antisémitisme des années 30. Il est lié essentiellement à la montée de l'islamisme.
Alors justement, c'est là la particularité de l'antisémitisme d'aujourd'hui. En quoi est-il donc vraiment différent de l'antisémitisme des années 30 ?
Derrière l'antisémitisme des années 30, il y avait un arsenal idéologique élaboré depuis la fin du 19e siècle en parallèle avec la construction du pangermanisme. Mais l'antisémitisme actuel, qu'Alain Finkielkraut préfère appeler antisionisme, est essentiellement lié à la montée de l'islamisme radical qui se nourrit en partie du conflit israélo-palestinien. C'est le même phénomène que l'on retrouve chez l'ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad.
مصوبات شورای امنیت و مجمع عمومی در مورد تأسیس رژیم قاسم.
Quelle est la teneur de son propos?
Il rejette catégoriquement la création de l'État d'Israël. Son déni des faits historiques concernant l'extermination des Juifs par les nazis viendra plus tard. Je veux dire qu'il est animé d'abord par l'antisionisme.
Alison, la France n'est pas le seul pays à être touché par ce fléau. Parlez-nous de ce qui se passe en Grande-Bretagne.
Oui, Philippe, cette semaine, 9 députés du Parti travailliste ont démissionné. Le dernier, qui s'appelle Ian Austin, disait que le parti est plus dur envers les gens qui se plaignent d'antisémitisme qu'envers les antisémites. D'autres se sont pris directement contre le leader du parti, Jeremy Corbyn, accusé très souvent d'être trop à gauche, pro-palestinien et ne pas pouvoir tenir son parti. C'est vraiment des critiques très récurrentes, mais qui ne sont pas toujours entièrement fondée, mais l'une des députées, Angela Smith, qui s'est retrouvée fort ridicule le lendemain de sa démission, on lui a demandé à la télévision les raisons pour son départ, elle a évoqué les minorités ethniques, elle s'est un peu mélangé les pinceaux, et elle trouvait pas les mots. et elle a parlé des gens qui avaient un drôle de teint, un funny tinge, au lieu de parler des minorités ethniques.
Donc c'est un problème qui fait également débat en Grande-Bretagne et dans d'autres pays européens d'ailleurs. Vous écoutez Accent du Monde sur RFI.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
La semaine dernière, un attentat suicide perpétré dans le sud-est de l'Iran a coûté la vie à 27 membres des gardiens de la Révolution. L'attentat a été revendiqué par un groupe armé du nom de Jaish al-Adl, qui signifie « armée de la justice ». Alors Ali Reza Manarfzadeh, pardon, de la rédaction Persane, dites-nous en plus sur ce groupe.
C'est un groupe composé de Baloutches iraniens, mais basé selon le régime iranien au Pakistan. Ses membres sont de confession sunnite de l'école hanafite. Le régime iranien les accuse d'être influencés par le wahhabisme saoudien. Ils ne cachent pas leur hostilité envers les chiites, surtout quand il s'agit de vivre sous leur domination.
Alors, il s'agit d'un groupe séparatiste parce qu'il rejette la domination d'un État chiite, en l'occurrence la République islamique d'Iran.
Tout à fait. Mais un séparatisme qui n'est pas seulement motivé par une querelle confessionnelle. C'est aussi un séparatisme culturel et ethnique. Les Baloutches constituent une ethnie à part entière. En tout cas, Téhéran accuse Islamabad et Riyad de soutenir ce groupe. Dans une allocution, le commandant en chef des gardiens de la Révolution se demande
quelle est sa question?
Il dit pourquoi l'armée et les forces de sécurité pakistanaises abritent-elles ce groupuscule mécréant et contre-révolutionnaire et pourquoi ne disent-elles rien? Nous considérons ce silence comme une sorte de soutien à ce groupuscule. L'État pakistanais doit nous répondre. Dans cette allocution, il accuse aussi l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis de soutenir financièrement ce groupe.
Que dit-il?
Il dit les États traîtres de l'Arabie Saoudite et les Émirats doivent savoir que la patience de la République islamique est à bout. Notre État ne supportera plus vos soutiens secrets aux criminels anti-islam et aux groupuscules mécréants. Nous punirons ces deux États du sang de nos martyrs.
Autre chose, comment les autorités iraniennes ont-elles réagi au voyage que vient de faire le prince héritier Mohammed ben Salman, le prince saoudien, au Pakistan, justement?
Après avoir accusé le Pakistan de complaisance à l'égard des combattants séparatistes de Jaish al-Adl, les Pakistanais ont essayé de calmer le jeu. À la suite du voyage de Ben Salman au Pakistan, les autorités iraniennes ont modéré leur discours à l'égard du Pakistan en désignant l'Arabie Saoudite comme principal responsable de l'attaque suicide contre les gardiens de la Révolution. Le 19 février, Bahram Rossemi, le porte-parole du ministre des Affaires étrangères, a dit « L'Iran et le Pakistan sont suffisamment lucides pour ne pas laisser l'Arabie Saoudite envenimer leurs relations en profitant des événements qui viennent de se produire. »
Voilà pour le point de vue de la rédaction Persane avec Ali Reza Manafzadeh. L'actualité de la semaine en Russie, c'est ce discours annuel de Vladimir Poutine, donc devant le Parlement. C'est déjà sa 15e adresse aux députés et membres du gouvernement. En baisse historique dans les sondages, l'homme fort du Kremlin a dû rassurer ses concitoyens, Denis Streklov.
Exactement, le discours de cette année était vraiment très différent de celui de mars 2018. Il y a un an, Vladimir Poutine a annoncé devant le Parlement de nouvelles armes destinées à protéger la population de toutes les menaces extérieures. Cette annonce a été très apprécié par les Russes à l'époque selon les sondages. Mais ce vendredi, Vladimir Poutine a tout d'abord annoncé de nouvelles mesures visées à améliorer le niveau de vie de la population. Plus d'une dizaine de propositions ont été faites par le président, y compris l'augmentation des prestations sociales. Les mesures sont même radicales. Certaines familles vont percevoir une somme de 6000 euros pour la naissance du deuxième et du troisième enfant. Donc ces mesures vont coûter environ 1,5 milliard d'euros par an, une somme très importante qui est difficile à trouver dans un budget russe.
Autre chose, le président russe n'a pas manqué l'occasion de critiquer, de menacer même les États-Unis.
Exactement, après un long discours consacré à la lutte contre pauvreté, Vladimir Poutine a brièvement abordé la politique extérieure. Et si le ton a changé, on pourrait sentir que les relations avec les États-Unis et le rôle de sa puissance dans le monde, c'est le sujet qui intéresse davantage le président. On l'écoute.
Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружения, которые могут быть использованы.
Qu'a dit Vladimir Poutine?
Que la Russie pourrait déployer la nouvelle génération de missiles pour répondre aux actions des États-Unis, notamment les sorties unilatérales du pays de les traités sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Ces missiles seront, selon Poutine, invincibles, invisibles et hypersoniques, avec une vitesse de 10 000 km à l'heure. Et en plus, ils vont viser pas seulement les endroits où les États-Unis ont déployé leurs armes, c'est-à-dire l'Europe, mais également les villes sur le continent américain. La menace est donc inédite. Et pendant son discours, Vladimir Poutine ne s'est privé aussi des expressions parfois un peu trop fortes. Il a dit que les pays européens grognent comme les cochons avec les États-Unis.
Est-ce que tout cela signifie un retour de la guerre froide?
C'est au moins le point de vue qui est partagé par les experts. Mais pour politologue Alexandre Goltz, il n'est pas sûr que la Russie puisse déployer de nouveaux missiles.
Совершенно непонятно, откуда возьмутся эти чудодейственные виды оружия, которые...
Il dit que le missile qui peut atteindre la vitesse de 10 000 km à l'heure, ce que Vladimir Poutine a annoncé, est une arme extrêmement puissante, mais le président russe et le ministre de la Défense ne fournissent jamais des preuves au public. On ne peut pas distinguer les rêves de M. Poutine de la réalité. Il n'existe aucun contrôle de la parole du président et il n'est pas obligé de se baser sur les faits. Tout ça pour dire, même si le ton du M. Poutine est certes très dur et même hostile, les menaces peuvent ne pas être réelles et une nouvelle guerre froide n'est pas pour l'instant dans l'actualité.
Voilà, merci à vous, Denis Strekloff de la rédaction russe de RFI. Quant à la rédaction en anglais, elle s'est intéressée à Bordeaux. Alors tout le monde connaît cette ville et sa région pour son vin, beaucoup moins pour son passé esclavagiste. C'est ce qui a d'abord fait sa richesse. Alison Hearn, votre rédaction s'est donc penchée sur cette traître négrière. Pourquoi maintenant ?
Parce que Philippe, actuellement, c'est Black History Month, c'est-à-dire le mois de l'histoire des Noirs. C'est un événement annuel célébré depuis 76 aux États-Unis et qui commémore et enseigne l'histoire des cultures noires. C'est parfois problématique, on sait en France, de promouvoir de tels événements. La France est très attachée à l'indivisibilité du pays et à ce qu'on soit tous un peu pareil, quoi. Mais petit à petit, ça prend racine. C'est la deuxième année. C'est l'occasion de célébrer donc la culture des diasporas noires en France.
Alors rappelez-nous ce qui se passait à Bordeaux entre le XVIIe et le XIXe siècle.
Bah, pendant cette période, 150 000 Africains des colonies françaises ont été transportés par des marchands bordelais vers les États-Unis et échangés pour du sucre et du tabac. En plus, Bordeaux pratiquait ce qu'on appelle le commerce en droiture, c'est-à-dire les bateaux partaient de Bordeaux avec du vin, du foie gras, des produits locaux, allaient les vendre dans les colonies et revenaient avec des produits coloniaux qu'ils vendaient ensuite à Bordeaux. Ce commerce alimentait le marché de l'esclavage puisque les produits coloniaux étaient faits par des esclaves. Alors, Christina Ocalo de notre service s'est rendue à Bordeaux, a interrogé Nirina Ralanto-Saritsima. Elle est franco-malgache, ancien prof et réside à Bordeaux.
The point is not to put a shame on the city. The point is to tell the story and to reconcile. Reconciliation is something.
Que dit-elle?
Oui, donc elle dit que l'objectif de tout ça, de ce Black History Month et les manifestations à Bordeaux, c'est pas de montrer la ville du droit, mais de réconcilier la ville avec son passé. Et cette réconciliation vient de la reconnaissance et pas de la culpabilité. En tant que Française d'origine africaine, elle dit, et d'ailleurs de la nouvelle génération, elle est passionnée d'histoire et elle veut une meilleure prise de conscience pour qu'on écrive l'histoire, non pas du point de vue des Blancs, qui étaient essentiellement les cas jusque-là, mais des Noirs également, et qu'on ait toutes les nuances entre les deux, c'est-à-dire une vraie histoire et plus d'équilibre.
Alors ce Black History Month, tout le monde n'est pas convaincu hein, de ses mérites.
Non, l'adjoint au maire, Marie Fetou, avoue que la ville de Bordeaux a beaucoup traîné avant de reconnaître son passé esclavagiste. Les lobbies étaient quand même pas très chauds à ce que l'image de la ville soit écorchée. Mais quand même, ça fait son chemin maintenant.
Bordeaux à visiter pour ses belles choses, mais également pour son histoire beaucoup plus sombre. C'était Accent du Monde. Dans quelques instants, l'essentiel de l'actualité sur RFI.